Aujourd'hui, je vous présente le portrait de la famille Ducharme, plus précisément celui de Mireille Ducharme, maman d'Isabelle, 50 ans, qui l'accompagne d'ailleurs aujourd'hui, également de Jean-François, 43 ans, et Mireille est grand-maman de deux petits bouts, Olivier, 7 ans, et Naomi, 5 ans. Vous le savez maintenant, comme à chaque émission, je me suis inspirée du parcours de Mireille et d'Isabelle. Et ce sont des femmes qui portent très bien leur nom de famille, Ducharme, une famille pleine de charme. Vous allez le découvrir. Donc, vous serez en contact au cours de ces 60 prochaines minutes avec leur goût, leur personnalité, leur découverte et leurs intérêts. Je m'en suis servie pour bâtir l'émission. Mireille et Isabelle, bonjour.
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 Merci d'être là. Isabelle, on se connaît bien.
Oui.
Je pense que je vais te tutoyer, si tu le permets.
Ce serait plus facile, je crois.
Je crois que ce serait plus facile. Pour Mireille, c'est un petit peu moins le cas. J'apprendrai à vous connaître avec grand plaisir. Et je me suis rendu compte, en creusant un petit peu, que la pomme tombe jamais bien, bien loin de l'arbre. Parce que Mireille, Isabelle, je la connais, comme je le disais, c'est une femme pleine de projets, pleine de vie, attachante, qu'on aime côtoyer. Et c'est des valeurs que vous avez. C'est important pour vous de transmettre ces valeurs-là.
Bien sûr.
Et Isabelle a su, bien sûr, capter aussi ces valeurs-là dans le nid familial.
Bien, je pense qu'effectivement, le cliché, là, quand on dit que la pomme ne tombe pas tellement loin de l'arbre, c'est tout à fait réel dans notre vie à nous. Ma mère est une personne qui a toujours été... fonceuse, qui a toujours... c'est une mère monoparentale qui prend tellement soin de ses enfants. C'est le centre de son attention. Et gare à vous, si vous blessez un de ses enfants, il n'y aura aucune raison pour que vous le fassiez.
C'est une lionne. Et on la voit sur la photo qui circule en ce moment. Êtes-vous lionne pour vrai? Parce que votre fête, c'est l'été, hein?
Non, moi, je suis Gémeaux. Isabelle,
ah,
vous êtes...
ah, c'est ça. Je savais qu'il y avait du lion dans cette famille-là. Je sais que votre famille, c'est l'été, Mireille, parce que la photo qui circule en ce moment sur nos ondes, c'est une photo où l'on vous voit avec Jean-François. Il y a également Isabelle qui est là. Une petite puce qui, j'imagine, est Naomi, et la conjointe de Jean-François. Et c'est lors de votre anniversaire, votre 70e anniversaire.
Eh oui, c'était une surprise qu'Isabelle m'a fait. Je ne savais pas, je ne m'attendais pas du tout, du tout. Moi, je m'en allais tout simplement chez mon fils, passer la journée là, puis profiter de la piscine. Et puis quand on est arrivé en arrière de la maison, alors tout le monde était là. Il y avait à peu près 30 ou 40 personnes là, qui étaient là. Alors, c'était toute ma famille, les amis, tout le monde était présent. Tout le monde que j'aime était présent.
Oui, vous êtes une famille très, très unie. On aura l'occasion d'en reparler. Je veux parler d'un événement qui a fait basculer votre vie à vous deux. C'était en juillet, la veille de ton anniversaire, mm-hmm. Isabelle. Tu allais avoir 22 ans. Mireille, vous recevez cet appel qu'aucun parent ne veut recevoir. Qu'est-ce qui arrive à ce moment-là?
À ce moment-là, c'est comme tu ne crois pas, tu ne peux pas croire. Là. C'est elle était d'ailleurs en extérieur, elle était au Manitoba.
Oui.
Alors, on m'a téléphoné à mon travail pour me dire que Isabelle avait eu un grave accident et que si je voulais la voir vivante, il fallait que j'aille la voir tout de suite. Alors, moi, c'était la panique totale. C'est mon patron qui a pris le téléphone pour savoir.
Vous avez
exactement.
Hurlé.
Ah, j'ai hurlé, c'était épouvantable. Alors après ça, on m'a fait parler au padre qui m'a expliqué qu'Isabelle était vraiment mourante là, entre la vie et la mort, qu'il ne savait pas jusqu'à quand elle pouvait rester en vie. Alors j'avais mon fils de 14 ans à ce moment-là, je ne pouvais pas le laisser tout seul. Alors je suis partie, je suis montée là-bas et puis j'ai été là-bas un mois avec elle, dans la chambre, la coucher dans la chambre, dans une chaise à côté de son lit.
Vous avez fait la route, Mireille, Montréal... Winnipeg en voiture.
En voiture.
30 heures à pleurer sans arrêt.
Sans arrêt.
Lorsque vous êtes arrivée à l'hôpital, par une force des choses, c'est difficile à expliquer, Isabelle s'est éveillée, elle vous a dit quelque chose.
Oui, elle a ouvert les yeux deux secondes et elle m'a dit « c'est terrible, maman ». Et puis elle est tombée dans le coma. Elle était dans le coma pendant 10 jours.
Oui.
Ah, c'était l'enfer.
Isabelle, de quoi tu te rappelles de ce moment-là?
En fait, de cet éveil-là, rapide, aucunement. Ça a vraiment été un 10 jours dont j'ai aucune idée ce qui s'est passé pendant ces 10 jours-là. Tout ce que je me souviens, parce que je me souviens même pas de l'accident, je me souviens de l'avant-accident,
ouais.
Mais tout ce que je me souviens de la suite, de l'hôpital, c'est quand tranquillement je me suis réveillée et que j'ai commencé à entendre des voix qui me semblaient familières, celles de ma mère, celles de mon père. Et je me demandais premièrement ce que les deux faisaient là, parce que mes parents ne sont pas ensemble, et à côté de moi. Et tranquillement, j'ai pu éventuellement ouvrir les yeux pour leur laisser savoir que oui, maintenant, je les entendais. Et de mon souvenir, vraiment, honnêtement, ce que je me souviens, c'est qu'au fur et à mesure, je me disais, ah tiens, j'entends.
Mm-hmm.
Ah tiens, je vois. Et là, d'avoir essayé de parler, ça a été une panique parce que j'étais intubée. Fait que c'est comme, mais voyons, je peux pas parler, mais il faut que je parle, il faut que je dise que je suis là, il faut que je comprenne ce qui se passe. Donc, tranquillement, je prenais conscience de l'environnement. J'avais le médecin, tranquillement aussi, qui me disait ce qui se passait. Mais j'ai senti un tel soulagement quand on m'a enlevé le tube et que j'ai pu parler. Et vraiment, de mon souvenir, là, toute cette première période-là en soins intensifs, c'était me concentrer toujours sur ce que j'étais capable de faire encore plutôt que je suis pas capable de bouger, je suis pas, c'est plus, ça a vraiment été plus qu'est-ce, mon doux, je peux encore faire ça.
Tu étais à ce moment-là dans les forces armées, mm-hmm. Tu l'avais été pendant 3 ans. C'est eux d'ailleurs qui ont pu te rapatrier, si je peux dire ça, à Montréal, à Gingrand-Lindsay, à Lucie Bruneau. Par la suite, où s'est amorcée cette période de réadaptation mm-hmm. qui a été ponctuée, Isabelle, de haut et de bas?
Ah oui, clairement. Il y a eu des plateaux, il y a eu des descentes, il y a eu mon premier échec à vie parce que j'avais jamais abandonné un projet avant. J'avais toujours poussé tous mes projets. Moi, j'étais une fille à défi et là, je décide de retourner aux études alors que je suis encore en réadaptation. Mais c'était des cours qui se donnaient le jour. J'avais ma physio, j'avais mon ergo, le psychologue, etc. Ça a été trop exigeant et c'était la première fois de ma vie que j'étais obligée d'abandonner.
De prendre une pause, là.
Oui.
Oui.
Mais pour moi, c'était à partir de ce moment-ci, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie si à partir de maintenant, je dois abandonner tout ce que je veux commencer?
Oui. En même temps, j'aimerais dire aux gens qui nous écoutent qu'Isabelle a pris une pause, mais qu'elle a aussi, pendant cette période-là, fait un DEC en tourisme, un baccalauréat en communication, une maîtrise en planification et gestion de tourisme. Donc, s'arrêter, oui, non, bien sûr, échelonné sur plusieurs années.
C'était post-réadaptation quand même.
C'était post-réadaptation, oui. Mais cette idée-là, tu as eu peur à ce moment-là de devoir abandonner tes rêves.
Oui, absolument. J'avais l'impression que ça y est, je suis plus bonne à rien. Parce que j'ai essayé de faire quelque chose puis j'ai pas réussi. Jusqu'à un moment donné où on se dit, bien, c'est pas parce que t'as eu... Il y a quelque chose ou quelqu'un, quelque part, que je peux pas identifier, mais qui a fait que, bien, voyons, c'est pas parce que t'as eu un échec que le reste de ta vie va être
déterminé par ça. Ouais. Il y a aussi les pronostics des spécialistes de la santé qui vous disent « Isabelle ne marchera plus, ne mangera plus. » Mireille, vous réagissez à ce moment-là en disant « Moi, je lui donnerai mes jambes. »
Ah oui. C'est sûr que quand ils m'ont annoncé ça, je lui ai demandé qu'est-ce que je pouvais faire pour qu'elle puisse remarcher ou qu'elle puisse... c'était pour moi là, insoutenable de savoir qu'Isabelle ne marcherait plus. Elle était sportive, elle faisait du judo, elle a fait du volleyball... Il n'y a pas un sport là, qu'elle ne connaissait pas. Alors pour moi, c'est le pire, là, c'était de savoir qu'elle ne marcherait pas.
Ouais.
Quand je la vois aujourd'hui, c'est différent. Elle se débrouille, ses jambes, c'est rendu son fauteuil, ses bras, mais c'est Jaco qui l'aide. Alors, sa vie est quand même... Puis Isabelle, c'est la fille qui est toujours de bonne humeur.
Ouais. C'est votre rayon de soleil,
jamais,
je me l'avais dit.
Ah oui, jamais rien qui l'arrête. Elle se lève le matin avec le sourire, puis elle se couche avec le sourire, toujours.
Oui. Tu es tétraplégique, Isabelle,
oui.
Donc la marche, ce n'est pas revenu. Il y a eu cette période de réadaptation qui a été déterminante dans ta vie. Il y a un homme qui t'a aidé énormément, c'est Rol Paillé. Oui. Ça a été ton conseiller d'intégration à ce moment-là. De quelle façon il a été déterminant pour toi?
Bien, quand tu es en réadaptation, tu as plein de gens autour de toi qui te disent ce que tu devrais faire, qui essaient de t'expliquer comment être fonctionnel dans la vie, mais c'est des gens sur leurs deux pattes. C'est des gens qui, oui, ont une formation en ergothérapie, en physiothérapie, un psychologue, un médecin, etc., mais c'est des gens qui ne sont pas assis dans un fauteuil roulant comme toi. C'est des gens qui ont plein de bonne volonté puis plein de théories. Mais quand c'est quelqu'un qui est en même situation que toi, qui a passé par les mêmes étapes de réadaptation, d'insertion sociale, de questionnement sur qu'est-ce que je vais faire avec ma vie maintenant que je ne peux plus me tenir debout, maintenant que je ne peux plus faire les choses de la façon que je les faisais avant, ça change tout. T'es plus porté à l'écouter.
Ouais.
T'es plus porté à sentir que lui, il te parle de quelque chose qu'il comprend
et qu'il
vraiment
a traversé. On parlait avec Lucie Mandeville de ces gens qui ont le bonheur facile. Vous en êtes de ça. Évidemment, le bonheur, ça s'entretient peut-être en focalisant sur le positif malgré des obstacles qui peuvent survenir. Mireille, vous m'avez dit que l'un des volets positifs de l'accident d'Isabelle, c'était d'avoir pu la voir plus souvent.
Oui, effectivement, parce qu'Isabelle a quitté la maison, elle avait 16 ans. Alors, si on m'avait dit que je passerais, les 30 ans avec Isabelle journellement, tous les jours, je ne l'aurais pas cru. Mais c'est le côté positif pour moi, c'est d'avoir ma fille avec moi tous les jours. Ouais. Ça, c'était un rêve que j'aurais même pas pu imaginer, là.
Ouais.
Parce qu'Isabelle, c'était une voyageuse. Je sais que si elle avait été avec la GRC, elle n'aurait pas été à Montréal, là, jamais. Là.
Ouais.
Elle aurait été partout à travers le monde, sauf ici.
Ça a été une façon pour vous, en focalisant sur cette beauté-là, d'avoir votre fille tout près de vous, de continuer jour après jour et de vous accrocher et de voir finalement les belles choses dans votre vie au quotidien.
Exactement. Puis de la voir, Isabelle, malgré tout, malgré son handicap, de la voir si positive, puis toujours aller de l'avant, puis avoir toujours des projets. Alors moi, je l'accompagne dans ça, là. C'est, pour moi, c'est du positif tous les jours, là.
Isabelle, elle ne s'est jamais plainte.
Jamais. Jamais.
Oh! Elle n'est pas certaine de ça, Isabelle.
Elle peut, non. Moi, je sais pertinemment qu'elle a des douleurs tous les jours, mais qu'elle n'en parle jamais, 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 jamais. Tu sais, des fois, moi, je me plains puis je me dis, ben là, tu sais, regarde Isabelle à côté, là, elle, c'est bien pire, elle, c'est toujours. Alors, c'est un rayon de soleil, Isabelle.
Tu n'es pas d'accord avec ça, Isabelle?
Bien, écoute. Oui, je suis une personne qui essaie de se concentrer sur ce qui va bien plutôt que sur ce qui va mal. Effectivement, je ne suis pas une personne qui se plaint facilement ou au quotidien ou à la moindre chose. Mais c'est sûr que, comme tout le monde, j'ai des journées que ça va un peu moins bien que d'autres. Fait que je suis pas un robot non plus.
Non.
Là. Je reste un humain. Mais j'essaie que mon fardeau personnel ne devienne pas le fardeau des autres. Et c'est peut-être pour ça que souvent on a l'impression que j'ai le bonheur facile et que j'ai pas ce réflexe-là de me plaindre facilement.
Ouais. Ta mère a dit, Isabelle, c'était une petite bombe, toujours en voyage, sportive, plein d'activités. Tu étais comme ça, tu es encore comme ça.
Ouais.
Tu as même dit que peut-être que cet accident-là t'avait permis de faire encore plus de choses que tu l'aurais imaginé.
Oui, en fait, ça m'a rendu, je pense, mon premier réflexe, c'est de dire plus humaine, mais c'est pas ça. C'est plus consciente, je pense, de mon entourage, des problèmes autour de moi, des façons que je pouvais peut-être aider les gens autour de moi. Bien que j'ai été une personne qui a toujours aimé le social, qui a toujours aimé avoir des amis, être bien entourée, mais j'avais quand même une tendance un peu à « bon, vous voulez pas le faire, c'est pas grave, je vais le faire seul.
»
Alors que maintenant, je me concentre beaucoup plus sur qu'est-ce que je peux faire sur les autres. Fait que ça m'a rendu peut-être un peu plus, bien que je bouge beaucoup, je fais plein d'activités encore aujourd'hui, ça m'a quand même me rasseoir, sans mauvais jeu de mots, et réfléchir un peu plus là, sur l'impact de mes actes et de choisir vraiment des projets pas juste parce que j'ai envie de les faire, mais parce que je sens qu'ils peuvent avoir un impact sur les autres.
Oui, que ça a une signification vraiment très grande pour toi. D'ailleurs, tu es impliquée dans plusieurs associations qui roulent, oui, dont tu es la présidente du conseil d'administration. Également, tu offres ces ateliers, l'ABC de l'autogestion des maladies et de la douleur. Ça, c'est du côté de quel hôpital?
Du CUSUM.
Du CUSUM. Et aussi, ben, tu es hyper impliquée chez Vues et Voix. On t'en remercie, d'ailleurs.
Et Isabelle, chez Ami Télé.
Et chez Ami Télé aussi. Il y a aussi cette passion des voyages qui, mm-hmm, t'habite, qui t'a toujours habité, qui est à quelque part pour toi une façon de te ressourcer.
Oui, oui, oui. J'ai toujours dit, moi, après mon accident, quand je me cherchais un peu, qu'est-ce que je veux faire dans la vie, même en réadaptation, j'aurais pas passé à travers tout ça si j'avais pas pu encore voyager. C'était, mm-hmm, une passion avant, ça l'a été pendant la réadaptation et par la suite. Donc, si j'ai voulu dire merci à mon frère et à ma mère pour tout le temps qu'ils ont passé à côté de moi pendant la réadaptation, ils ont mis leur vie un peu sur la glace pour s'occuper de moi. Donc, je les ai amenés à Disney World en Floride et on a passé une semaine magnifique ensemble. D'ailleurs, ma mère avait l'air d'un enfant de 5 ans devant Mickey Mouse. Fait qu'on a bien ri, on s'est bien amusé. Mais sans cette pause-là au milieu de la réadaptation, j'aurais pas passé à travers de la même façon et mes études non plus. J'avais pas pu partir en voyage. C'est là où je décroche complètement. D'ailleurs, notre premier voyage dans le sud, ma mère, ma tante et moi, avant de partir, j'ai dit, tu vas voir, à ma tante, j'ai dit, tu vas voir, tu me reconnaîtras pas en vacances dans le sud, je deviens une personne vraiment, tout ce que je veux faire, c'est de la plage, me reposer, lire. Puis elle m'a dit, voyons, je te connais, tu vas toujours être en recherche de, bon, qu'est-ce qu'on fait là? Après 5 minutes assis, qu'est-ce qu'on fait là? Et après la première journée, elle a dit, mais mon Dieu.
Elle a dû confirmer.
Je décroche.
Je veux en parler rapidement de ta tante, de tes tantes, Isabelle, plus avec Mireille, oui, peut-être, oui, parce que Mireille, vos sœurs, elles ont été très présentes dans les dernières années.
Très, très, très présentes. Dès le début, là, au début, quand on est revenu à Montréal, elles me remplaçaient. S'il y a une journée, je ne pouvais pas être à LOP au centre de réadaptation, il y en avait quelqu'un qui allait. Jusqu'au jour où, à un moment donné, mes sœurs m'ont dit, ben, tu en fais trop, ça n'a pas de sens, tu devrais arrêter. Mais moi, je leur ai suggéré de passer une nuit sans pouvoir se lever, sans pouvoir bouger, sans pouvoir se gratter le bout du nez, si vous voulez. Et puis, une de mes sœurs qui l'a fait, effectivement, puis qui est revenue après, puis qui m'a dit, on comprend pourquoi tu es si présente, puis pourquoi tu peux pas la laisser une journée là, sans être là.
Oui.
Alors, c'était vraiment, ça a confirmé, là.
Ouais.
Après ça, les gens comprenaient, puis ils étaient là quand même, mais tu sais, on me reprochait pas. C'était pas un reproche, mais c'était comme...
Ben, peut-être une attention,
oui,
à faire attention à vous.
Oui, exact.
Et c'est déjà la fin de cette émission, mais dans
déjà?
Du charme, oui. Okay. Ça passe vite quand on est en bonne compagnie. Merci, merci à vous de votre présence. Mireille, j'ai été ravie de vous connaître.
C'était bien. Merci beaucoup. C'était le même pour moi.
Et Isabelle, je profite de cette tribune-là pour te remercier d'exister.
Ouais. Wow!
J'aime me rappeler que tu existes, ma chère amie.
J'aime cette phrase.